travail est une école d'expérience.
Est une école
d'expérience.
Oui, bien sûr. Tu comprends pas? Si tu ne fais rien, tu ne peux pas avoir des expériences. Toute la vie est un champ d'expérience. Chaque mouvement que tu fais, chaque pensée que tu as, chaque travail que tu fais peut être une expérience. Et doit être une expérience. Et naturellement, le travail spécialement est un champ d'expérience où on doit appliquer tous les progrès que l'on s'efforce de faire intérieurement. Si vous restez dans la méditation et la contemplation sans travailler, eh bien, vous ne savez pas si vous avez progressé. Vous pouvez vivre dans une illusion, l'illusion de votre progrès. Tandis que si vous vous mettez à travailler, toutes les circonstances de votre travail, le contact avec les autres, l'occupation matérielle, c'est un champ d'expérience pour se rendre compte de non seulement du progrès que l'on a fait, mais de tous les progrès qui restent à faire. Si vous vous vivez enfermé en vous-même sans agir, vous pouvez vivre dans une illusion subjective complète. De la minute que vous extériorisez votre action, et que vous entrez en contact avec les autres, avec les circonstances et avec les objets de la vie, alors vous vous rendez compte d'une façon tout à fait objective de si vous avez fait des progrès ou pas. Si vous êtes plus calme, si vous êtes plus conscient, si vous êtes plus fort, si vous êtes plus désintéressé, si vous n'avez plus de désir, si vous n'avez plus de préférence, si vous n'avez plus de faiblesse, si vous n'avez plus d'infidélité, tout ça, vous pouvez vous en apercevoir en travaillant. Tandis que si vous restez enfermé dans une méditation tout à fait personnelle, vous pouvez entrer dans une illusion totale et ne plus en sortir. Et croire que vous avez réalisé des choses extraordinaires alors que vous avez seulement l'impression ou l'illusion que vous l'avez fait. C'est ça qu'il veut dire. Rien là-bas.
Non, 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 presque dans l'âme, presque toutes les écoles spirituelles font une doctrine de fruits de l'action.
Oui, parce que tout ça est basé sur l'enseignement que la vie est une illusion. Ça a commencé avec l'enseignement du Bouddha qui a dit que l'existence était le fruit du désir, et qu'il n'y avait qu'une façon de sortir de la misère, de la souffrance et du désir, c'est de sortir de l'existence. Et puis ça a continué avec Shankara, qui a ajouté que non seulement c'est le fruit du désir, mais c'est une illusion totale. Et tant que vous vivez dans cette illusion, vous ne pouvez pas réaliser le divin. Pour lui, il n'y avait même pas de divin, je pense. Pour le Bouddha, en tout cas, il n'y en avait pas.
Et alors, est-ce que vous avez vraiment de l'expérience?
Ça dépend de ce que tu appelles expérience. Ils avaient certainement un contact intérieur avec quelque chose. Le Bouddha a certainement eu un contact intérieur avec quelque chose qui, par rapport à la vie extérieure, était une non-existence. Et dans cette non-existence, naturellement, tous les résultats de l'existence disparaissent. Il y a un état comme ça. On dit même que si on maintient cet état pendant 20 jours, on est sûr de perdre son corps. Je le crois volontiers. S'il est exclusif. Mais ça peut être une expérience qui reste en arrière, n'est-ce pas ? Et qui demeure consciente tout en n'étant pas exclusive, et qui fait que le contact avec le monde et la conscience extérieure est supporté par quelque chose qui est indépendant et libre. Ça, c'est un état où vraiment on peut faire de très grands progrès extérieurement, parce que on peut se détacher de tout et agir sans attachement, sans préférence, avec liberté intérieure qui s'exprime extérieurement. Mais c'est ça la nécessité. Une fois que l'on a atteint cette liberté intérieure et ce contact conscient avec ce qui est éternel et infini, alors il faut, sans perdre cette conscience, retourner à l'action et la laisser influencer toute la conscience tournée vers l'action. C'est ça que Shiobindo appelle faire descendre la force d'en haut. C'est comme ça qu'il y a une chance de pouvoir changer le monde. Parce que on a été chercher une force nouvelle, une région nouvelle, une conscience nouvelle, et qu'on la met en contact avec le monde extérieur. Alors, sa présence et son action amèneront des changements inévitables et, on l'espère, une transformation totale dans ce qu'est ce monde extérieur. Alors on pourrait dire que le Bouddha, c'était tout à fait certain qu'il avait eu la première partie de l'expérience. Mais il n'a jamais songé à la seconde parce que c'était contraire à sa propre théorie. Sa théorie était qu'il fallait s'échapper. Mais il est évident qu'il n'y a qu'une façon de s'échapper, c'est de mourir. Et qu'encore, comme il a dit lui-même très bien, vous pouvez être mort et être tout à fait attaché à la vie. Et être encore dans le cercle des renaissances et ne pas avoir de libération. Et en fait, il a admis l'idée que c'est par les passages successifs sur la terre que l'on peut arriver à se développer jusqu'à cette libération. Mais pour lui, l'idéal, c'était que le monde n'existe plus. C'était comme s'il taxait le divin d'avoir commis une erreur et qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de réparer l'erreur en l'annulant. Mais naturellement, pour être raisonnable et logique, il n'admettait pas le divin. C'était une erreur commise par qui, comment, de quelle façon, ça il ne l'expliquait jamais. Il disait simplement qu'elle était commise. Et que le monde avait commencé avec le désir et qu'il devait finir avec le désir. Il était juste sur le point de dire que ce monde était purement subjectif, c'est-à-dire une illusion collective, et que si l'illusion cessait, le monde cesserait. Mais il n'a pas été jusque-là. C'est Shankara qui a pris la succession et qui a rendu la chose tout à fait complète dans son enseignement. Et alors, non pas l'ancienne, si on remonte à l'enseignement des rishis, par exemple, il n'y avait aucune idée de fuite hors du monde et pour eux la réalisation devait être terrestre. Ils concevaient très bien un âge d'or où la réalisation serait terrestre. Mais à partir peut-être un certain déclin de vitalité dans la vie spirituelle du pays, peut-être une différente orientation qui est venue, c'est à partir certainement de l'enseignement du Bouddha qui est venu cette idée de fuite et qui a miné la vitalité du pays. Parce qu'il fallait faire des efforts pour se couper de la vie. La réalité extérieure devenait un mensonge illusoire et il ne fallait plus rien avoir avec. Alors naturellement, on se coupait de l'énergie universelle et la vitalité allait diminuant. Et avec cette vitalité, toutes les possibilités de réalisation aussi diminuent. Mais il est très remarquable, j'ai vu beaucoup de gens qui essayaient cette méthode de détachement et de séparation de l'existence et de vivre exclusivement dans la réalité intérieure. Ces gens-là, extérieurement, presque tous, ils avaient des défauts absolument grossiers. Quand ils revenaient à la conscience ordinaire, ils étaient très inférieurs à un homme d'élite, par exemple, un homme qui a une grande culture et un grand développement intellectuel et moral. C'était des gens qui dans leur conduite ordinaire, quand ils sortaient de leur méditation, de leur concentration exclusive, ils vivaient d'une façon très grossière. Ils avaient des défauts très très ordinaire, n'est-ce pas? J'en ai connu beaucoup comme ça. Ou alors, ils étaient arrivés à l'état où leur vie extérieure était une sorte de rêve dans lequel ils étaient, pour ainsi dire, inexistants. Mais on avait tout à fait l'impression d'être complètement incomplet, totalement incomplet. C'est-à-dire que extérieurement, c'était rien du tout.
Dans la conscience extérieure, on est très bas. Comment est-ce qu'on peut méditer? Ça devient très difficile, non?
Oui. Très difficile.
Alors, comment ces gens réussissent?
Non, mais ils en sortaient complètement. Ils laissaient ça, comme on enlève un manteau, puis ils le mettaient là, et ils entraient dans une autre partie de leur être. Et c'est ça qui se produisait, justement. Et c'était comme s'ils enlevaient cette conscience, qu'ils la plaçaient à côté d'eux, et puis ils entraient dans une autre partie de leur être, et dans leur méditation, et tant qu'ils restaient là, c'était très bien. Mais ces gens-là, pour la plupart, quand ils étaient dans cet état-là, ils étaient dans une sorte de samadhi, et qu'ils ne pouvaient même pas parler. Et alors, quand ils revenaient, et qui reprenait la conscience ordinaire, elle était exactement là où elle était auparavant, complètement inchangée, il n'y avait pas de contact. N'est-ce pas, ce qui te rend la chose difficile à comprendre, c'est que tu ne sais pas d'une façon concrète, pratique, qu'il y a des différents plans de ton être, comme de tous les êtres, qui peuvent ne pas avoir de contact entre eux. Et qu'on peut très bien passer d'un plan dans l'autre et exister dans une certaine conscience en laissant l'autre absolument endormi. Et d'ailleurs, même dans l'activité, à différents moments, ce sont différents états d'être qui entrent en activité. Et à moins qu'on ne prenne le plus grand soin de les unifier, de les mettre tous d'accord, il y en a qui peuvent tirer d'un côté, l'autre tirer de l'autre, le troisième tirer d'un troisième, et être tout à fait en contradiction les uns avec les autres. Il y a des gens qui, dans un certain état d'être, sont par exemple constructifs et qui sont capables d'organiser une existence et de faire un travail très utile, et qui dans une autre partie de leur être sont tout à fait destructeurs et démolissent constamment ce que l'autre a construit. J'ai connu un certain nombre de gens comme ça, et alors qui apparemment avaient une vie incohérente, mais c'était parce que les deux parties de l'être, au lieu de se compléter, de s'harmoniser dans une synthèse, ils étaient séparés et en contradiction, et que l'un défaisait ce que l'autre faisait, et tout le temps ils passaient de l'un à l'autre comme ça. Ils avaient une vie sans suite. Et il y en a plus qu'on croit, des gens. Il y a des exemples très marquants qui sont frappants, tellement ils sont clairs et distincts, mais des conditions moins totalement opposées, mais tout de même en contradiction les unes avec les autres, ça arrive très très souvent. D'ailleurs, on a l'expérience soi-même, quand on a essayé de faire un progrès, il y a une partie de l'être qui participe à l'effort et qui fait le progrès, et tout d'un coup, sans rime ni raison, tout l'effort que l'on a fait, toute la conscience que l'on a obtenue, ça chavire dans quelque chose qui est tout à fait différent, en contradiction et sur lequel on n'a pas de contrôle. Il y a des gens qui peuvent faire un effort toute la journée, arriver à se construire quelque chose dans deux. Ils s'endorment la nuit, le lendemain matin, tout ce qu'ils avaient fait la veille est perdu. Ils l'ont perdu dans un état d'inconscient. Ça arrive très souvent, ce n'est pas des cas exceptionnels, loin de là. Et c'est ça qui explique, n'est-ce pas, qu'il y a des gens qui peuvent, lorsqu'ils se retirent dans leur mental supérieur, par exemple, peuvent entrer dans des méditations très profondes et se libérer des choses de ce monde, et puis, lorsqu'ils reviennent à leur conscience physique ordinaire, sont des gens absolument ordinaires, sinon même vulgaires. Parce qu'ils n'ont pas pris le soin d'établir le contact et de faire que ce qui est en haut agisse et transforme ce qui est en bas.
De Bouddha, j'ai une question. Tu avais dit que l'avatar il vient sur la terre pour montrer que le divin peut exister sur la terre. Mais le Bouddha il prêchait juste le contraire. Est-ce qu'il y a un avatar ou
non? Ça, il y a des gens qui disent que c'est un avatar, il y a des gens qui disent ça. À dire vrai, c'est. Je pense que c'est la première chose que l'avatar vient sur la terre pour prouver que le divin peut. Ce n'est pas tant prouvé par les mots que prouvé par une certaine réalisation. Et je pense que ce serait plutôt cet aspect du divin qui est constructif et préservateur plutôt que un aspect transformateur et destructif. N'est-ce pas? C'est pour employer les noms indiens connus dans l'Inde, eh bien, je pense que ce sont les avatars de Vishnu qui viennent plutôt pour prouver que le divin peut venir sur la terre, tandis que chaque fois que Shiva s'est manifesté, il s'est toujours manifesté comme ça, dans des êtres qui ont essayé de lutter contre une illusion et de démolir ce qui est. J'ai des raisons de penser que le Bouddha manifester quelque chose, pour parler plus exactement, manifester quelque chose de la puissance de Shiva. C'était la même compassion, compréhension de toute la misère et ce même pouvoir qui détruit, évidemment avec l'intention de transformer, mais qui détruit plutôt qu'il ne construit. Son œuvre ne paraît pas avoir été très constructive. Elle était très nécessaire pour enseigner aux hommes pratiquement à ne pas être égoïstes. À ce point de vue-là, c'était très nécessaire. Mais dans son principe profond, ça n'a pas beaucoup aidé à la transformation de la Terre. comme j'ai dit, n'est-ce pas, au lieu d'encourager la descente de la conscience supérieure dans la vie terrestre, ça a fortement encouragé cette séparation de la conscience profonde qu'il disait être la seule vraie de toute expression extérieure. Maintenant, n'est-ce pas, cette question du divin sur la terre, eh bien, tout naturellement, les gens qui ont cru en lui, on en fait un dieu, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à voir tous les temples et toutes les divinités bouddhiques, voilà, pour savoir que la nature humaine a toujours tendance à déifier ce qu'elle admire. Voilà.
Il y a une autre chose qu'on voulait demander. Il y a beaucoup d'arguments sur ce sujet. Si on doit prendre d'intérêt dans ces chansons qui n'ont pas de bon sens. Généralement, les chansons de cinéma. Si on doit prendre d'intérêt dans ces chansons.
Prendre d'intérêt? Comment ça?
Il y en a beaucoup qui écoutent et qui chantent aussi ces chansons partout.
Mais je ne comprends pas prendre de l'intérêt. On peut... On peut aimer ces choses-là parce qu'on n'a pas de goût, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça veut dire de prendre de l'intérêt. On prend de l'intérêt dans une étude, on prend de l'intérêt dans un travail, on prend de l'intérêt dans un progrès à faire, mais on peut se laisser aller à une activité de désœuvrement, mais ça ne peut pas dire qu'on peut prendre de l'intérêt.
Si on doit chanter ces chansons.
Doit pourquoi? Pour gagner sa vie.
Est-ce que ça ne fait pas un obstacle à notre projet?
Mais tout ce qui fait descendre la conscience est un obstacle dans l'intérêt, dans le progrès. Si vous avez un désir, ça fait un obstacle à votre progrès. Si vous avez une mauvaise pensée ou une mauvaise volonté, ça fait un obstacle à votre progrès. Si vous accueillez un mensonge quelconque, ça fait un obstacle à votre progrès. Et si vous cultivez en vous la vulgarité, ça fait un obstacle à votre progrès. Toutes les choses qui ne sont pas en accord avec la vérité font obstacle au progrès. Et il y en a des centaines tous les jours. Tout mouvement, n'est-ce pas? Par exemple, tout mouvement d'impatience, tout mouvement de colère, tout mouvement de violence, toute tendance à la dissimulation, toute déformation, qu'elle soit petite ou grande, de la vérité, toute mauvaise volonté, tout jugement partial, toute préférence, tout encouragement au mauvais goût et à la, n'est-ce pas, la vulgarité, tout ça c'est constamment sur le chemin. Tout ça, chacune de ces mouvements, petits ou grands, qui passagers ou durables, tous sont comme autant de pierres pour construire le mur pour vous empêcher de progresser. C'est pas seulement une chose. Il y en a des centaines. Il y en a des milliers. Il suffit d'avoir une préférence en soi. Il suffit d'avoir une impatience. Il suffit d'avoir un petit désir de dissimuler quelque chose. Il suffit d'avoir un écœurement, un dégoût pour un effort. Il suffit de n'importe quoi qui a à faire avec les désirs, les répulsions, tout ça, pour que ça vous entrave dans le progrès. Et alors, au point de vue de l'être intellectuel, de l'être artistique, de la partie de culture intérieure et extérieure, toute faute de goût, quelle qu'elle soit, est un obstacle terrible. Et naturellement, si on accepte tout ce monde, si je dois dire, est un monde d'extrême. Au point de vue goût, culture artistique et littéraire. D'un côté, elle fait des grands efforts pour découvrir quelque chose qui soit très, très haut, très pur, très noble. Et d'un autre côté, à l'autre bout, elle sombre dans une vulgarité qui est certainement infiniment plus grande que la vulgarité d'il y a 2 ou 3 siècles. Ce qui est curieux, c'est que il y a comme ça 2 ou 3 siècles, en remontant, les gens qui n'étaient pas cultivés étaient grossiers. Mais leur grossièreté ressemblait à celle des animaux et elle n'avait pas beaucoup de perversion en elle. Elle en avait, parce que dès que la mentalité est là, la perversion vient. Mais il n'y avait pas beaucoup de perversion. Mais maintenant, ce qui ne monte pas sur le sommet de la montagne, ce qui reste au niveau de la terre, est d'une grossièreté tout à fait pervertie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ignorant ou stupide, c'est laid, sale et répugnant au point de vue de la... C'est déformé, c'est méchant, c'est très bas. Et ça, c'est le mauvais usage du mental qui a produit ça. Sans mentalité, cette perversion-là n'existe pas. Mais c'est le mauvais usage de la mentalité produit cette perversion. Eh bien ça, c'est devenu ce qui est laid maintenant, ce qui est vulgaire et laid à tous les points de vue. Il y a des choses, les choses que l'on considère comme très jolies maintenant. J'ai vu de ces photographie ou de ces reproductions que l'on considère comme très jolies. C'est effroyablement vulgaire de perversion. Et pourtant, les gens s'esclavent et trouvent que c'est joli. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est déformé, qui n'est pas seulement sans culture, qui n'est pas seulement pas développé, qui est déformé, ce qui est bien pire. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de redresser une chose pervertie et déformée que d'éclairer une chose ignorante et sans éducation. Eh bien, je crois qu'il y a certaines choses qui ont été des grands instruments de perversion, et parmi ces choses, on peut dire le cinéma. Ça aurait pu être, et j'espère que ça deviendra, un instrument d'éducation et de développement, mais ça a été pour le moment un instrument de perversion et de perversion vraiment hideuse. Perversion du goût, perversion de la conscience et tout d'une laideur morale et physique terrible. Pourtant, c'est quelque chose dont on peut se servir pour l'éducation, le progrès, la culture et le développement artistique. Et à ce point de vue-là, ça pourra être un moyen de répandre la beauté et la culture d'une façon beaucoup plus générale et beaucoup plus accessible à tous que les moyens antérieurs l'étaient. Mais c'est toujours comme ça, parce que ce qui peut être mieux, si ce n'est pas mieux, ça devient pire. Et comme je disais au commencement, nous sommes à une époque d'excès. Excès dans tous les sens. Mais elle essaye avec excès de se perfectionner et elle tombe dans des excès de perversion qui sont relativement aussi grands, sinon plus grands. Et si on se regarde attentivement, on s'aperçoit que naturellement, comme on vit dans le monde tel qu'il est maintenant, on participe à sa vulgarité, et qu'à moins qu'on ne se surveille et qu'on ne mette constamment sur soi la lumière de sa conscience la plus haute, on risque de faire des fautes de goût au point de vue spirituel assez fréquentes. Voilà. Maintenant, je vais vous donner une méditation ce soir. Je vais voir si vous êtes capable de prendre un bain cérébral, nettoyage.
Quand on médite ici, quel est le sens sur lequel on doit concentrer?
À dire vrai, chaque fois, ça devrait être autre chose. La première fois, je vous ai dit de méditer sur ce que nous avions lu, n'est-ce pas? Eh bien, si vous voulez, aujourd'hui, nous pourrons essayer de faire entrer en nous une conscience purificatrice qui, comme je viens de le dire d'une façon amusante, nous donne un bain de cerveau, c'est-à-dire un bon petit nettoyage. une lumière qui purifie et qui nettoie.